Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Notre personnage de la semaine, mesdames et messieurs, c'est Roland Garros, puisque les internationaux de France de tennis débutent ce dimanche. Alors étonnamment, sachez que ce nom, Roland Garros, ne renvoie pas à un champion de tennis. Mais alors, qui était Roland Garros? Que faisait-il dans la vie? Pourquoi son nom est désormais synonyme d'excellence dans le domaine du tennis? Eh bien, on découvre qui il était. Son portrait est signé François Vantôme.
Et oui, le nom de Roland Garros ne renvoie pas à un champion de tennis, mais plutôt à un aviateur qui a marqué l'histoire de manière significative, bien loin des cours de la terre battue. Il est surprenant que le nom d'un aviateur ayant principalement fait sa renommée dans le ciel soit lié à un stade de tennis. Cela représente une originalité historique des internationaux de France et rend hommage à un pionnier et un héros. Né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion, Roland Garros était un sportif accompli. Bien qu'il n'ait pratiquement jamais joué au tennis, il s'est distingué dans des disciplines telles que le football, le rugby et le cyclisme. Ce dernier sport l'a même aidé à recouvrer des capacités respiratoires affaiblies par une pneumonie à l'âge de 12 ans. Diplômé de HEC et entrepreneur à seulement 21 ans, Garros a vécu un moment décisif en août 1909 lors d'un meeting aérien en Champagne. Il fut en effet captivé par les avions et décida d'apprendre à piloter. Il ne tarda pas à passer son brevet.
Il semblerait donc, comme vous le dites, que Roland Garros était très ambitieux, François, et il était surtout toujours en quête de record.
En effet, en 1911, à peine 2 ans après avoir adopté cette passion, il établit un record d'altitude en atteignant 3910 mètres. Les courses et les meetings aériens s'enchaînent et Roland Garros devient rapidement une vedette, attirant des foules en Europe et en Amérique du Sud. Son ambition ne connaissait pas de limite. Roland Garros voit en effet plus grand encore et veut survoler les mers. Il se lance un nouveau défi, traverser la Méditerranée, du jamais vu à l'époque. Le 23 septembre 1913, il va relier Saint-Raphaël à Bizerte, en Tunisie, sur son monoplan Morane-Saulnier en près de 8 heures, une épopée de quelque 780 km. Cet exploit fait de lui l'un des chouchous de tout Paris. Jean Cocteau, entre autres, devient son ami, le poète et cinéaste que Garros fait parfois voler, lui dédiera même un texte, Le Cap de Bonne Espérance.
Oui, mais voilà, François, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate et l'implication de Roland Garros va définitivement le faire entrer dans la légende.
Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, l'armement des aéronefs est quasi nul ou presque. L'âme de précurseur et d'inventeur de Roland Garros va une nouvelle fois faire la différence. Il met au point le premier chasseur monoplace équipé d'une mitrailleuse capable de tirer à travers l'hélice. Une véritable révolution à l'époque. Début avril 1915, le sous-lieutenant Garros enregistre 3 victoires successives en 15 jours. Mais il est malheureusement touché par la DCA allemande au-dessus de la Belgique. Contraint de se poser, il est fait prisonnier avant d'avoir pu mettre le feu à l'avion. Son invention est donc tombée entre les mains de l'ennemi qui saura s'en inspirer. 3 années passent avant qu'il ne réussisse, déguisé en officier allemand, à s'évader tout en dégradant sa santé durant sa captivité. Malgré les obstacles, il retourne au combat, mais il trouve la mort le 5 octobre 1918 au-dessus des Ardennes après avoir remporté un 4e duel aérien.
Mais alors, maintenant qu'on a dit tout ça, pourquoi son nom est lié au tournoi de tennis, François? Et puis, il y avait également une phrase qui est désormais célèbre, vous allez nous la dire, et qui est une inspiration pour les champions des internationaux de France, de Roland Garros donc. Et Roland Garros, l'homme n'y est pas étranger, expliquez-nous.
L'adage « la victoire appartient au plus opiniâtre » résonne parfaitement avec l'esprit de Garros. Et il en avait fait même inscrire une version sur les hélices de ses avions. 10 ans après sa mort, en 1928, le stade de tennis, amené à servir d'écrin aux mousquetaires en vue de la défense de leur titre en Coupe Davis, a été nommé en son hommage, à la demande d'Émile Le Sieur, ancien camarade de Garros à HEC et président du Stade français. Ainsi, bien que ses liens avec le tennis soient ténus, peu d'endroits au monde portent le nom d'une personne ayant fait preuve d'une telle détermination, intelligence et courage, des valeurs cardinales pour ceux qui visent le titre suprême des internationaux de France à la porte d'Auteuil.
Merci beaucoup François Vantôme.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.